Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood consacré aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, site d'information et de tendances, et
Sandrine Maggiani, Trend Director et Digital Content Editor.
Chaque dimanche, sur le temps d'une conversation entre amis, nous décryptons les tendances mode, beauté, bien-être, déco, food, etc.
Bref, les grands courants socioculturels qui influencent nos comportements et façonnent le monde et le mood moderne.
Bonne écoute. Bon, alors, aujourd'hui, on est chez Marlette.
Ouais.
Avec Sandrine,
mm-hmm.
Parce que oui, il faut soutenir le petit commerce, il faut aller s'affronter au monde.
On a le droit de sortir quand même encore, de se retrouver dans des lieux en respectant la distanciation. Mais justement, c'est pour se dire qu'on est là pour partager avec des lieux qui sont encore ouverts, qui nous proposent de bien manger et de se faire plaisir avec des dégustations saines. Au contraire, de sentir encore la chaleur de la communauté.
Vivant, comme dirait Renaud.
Ouais.
Moi, je suis désolée, hein. Renaud, c'est plus ça. Bon, bref, face aux enjeux sanitaires dans un monde qui connaît donc, on l'a dit, hein, une digitalisation accélérée, l'humain est devenu un luxe. C'est exactement ce qu'on disait à l'instant. Tout comme l'idée de faire du shopping en boutique. Bah oui, parce que maintenant, on ne peut plus essayer un vêtement in real life, totalement wild, parce qu'aussi incertain et anxiogène qu'une aventure en terre inconnue, voilà ce que la vie est devenue.
Ouais, c'est un peu ça, mais en fait, on peut arrêter là la comparaison quand même, parce que maintenant que les consommateurs ont vraiment intégré le respect des précautions, la protection, etc., eh ben, on ne peut plus imaginer quand même qu'ils vont se détourner d'une virée shopping. C'est comme venir chez Marlette ou n'importe quel autre café, café-resto, déguster quelque chose, se faire plaisir. Bon, on sait que quand même, ils ont besoin... L'idée maintenant, c'est vraiment ce besoin de réassurance en revanche.
Oui, oui, c'est le rôle des marques, hein, d'apporter à la clientèle quelque chose de nouveau en repensant les sites de vente et l'expérience client, parce que la boutique, les magasins restent un moyen efficace de construire ou de renforcer une notoriété de marque.
Oui, 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 et puis c'est un espace physique, c'est un espace de partage de toute façon.
Oui. Alors, facile à dire, mais comment fait-on pour repenser l'expérience boutique et magasin ?
Moi, je dirais que plus que jamais, l'idée, c'est d'être à l'écoute pour les marques, pour toutes les personnes qui ont justement une boutique ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'être à l'écoute des besoins de ses clients, de sa communauté, comprendre leurs attentes, leurs priorités aujourd'hui, le côté un petit peu anxiogène, pour adapter, être hyper agile, hyper flexible et adapter les offres physiques et leurs actions aussi, justement, en proposant, on le verra tout à l'heure, des actions particulières ou des initiatives particulières pour remettre l'humain au centre de la boutique. Oui. Renouer aussi avec le plaisir de l'espace de vente.
Oui, parce qu'effectivement, si on fait tout par... digital, si on fait tout sur son ordinateur, ça devient assez boring, quoi.
Ouais, et puis on se coupe du rapport humain, on se coupe
de ce délicieux rapport humain dont on n'avait pas idée, parce que c'est tellement une évidence que on baignait dedans sans s'apercevoir toujours à quel point ça
attend
et ça équilibre.
Essentiel. Ouais, absolument.
Alors créer un environnement réconfortant, c'est facile à dire, mais on fait comment?
On peut créer une espèce de vague de réassurance à travers des atmosphères réconfortantes, divertissantes, qui font oublier évidemment le réel un petit peu, aspirationnel aussi, parce qu'on vient chercher de l'inspiration, on vient se projeter dans le meilleur et pas dans le pire. Et puis aussi, aujourd'hui en boutique, on va plutôt chercher à ne pas submerger le client. On va jouer avec un visual merchandising, avec une mise en scène aérée. On va privilégier la confiance avec des équipes de vente qui ont vraiment une connaissance du client augmentée.
Et qui sont à l'écoute, hein, parce qu'on voit, hein, j'étais par hasard dans un magasin de luxe pour faire un cadeau et j'ai trouvé des gens très gentils. Et ils offraient même des petits échantillons, que, genre une petite trousse très jolie, que d'habitude il faut rechigner à donner. Hein.
Ouais. Mais c'est exactement ça. Et puis c'est aussi le côté de revenir à un échange sincère, avec beaucoup de prévenance. Et pas forcément justement dans ce qu'on attend d'une boutique de luxe, mais dans tout type de boutique. Ça, c'est vraiment un warning, c'est soyez prévenant, prenez le temps d'aller à la rencontre de votre client, que vous vendiez une pince à cheveux, une baguette de pain à un objet de luxe. L'expérience en magasin, en boutique, doit être vraiment dans cet échange de sincérité.
L'authenticité. C'est à chaque fois, qu'il y a une crise, effectivement, on emprunte aux meilleurs leurs codes. Ouais. On pille les codes des meilleurs, donc c'est normal qu'on pille les codes du luxe. Le luxe s'étant mis très longtemps à la digitalisation, elle a quand même une avance sur...
Sur le rapport humain, la présence, sur
l'attention.
L'attention, ouais. Et aussi sur cette idée de visual merchandising simplifié, bien pensé, avec un packaging clair, direct. Ça aussi, c'est ce que ça sait faire une marque de luxe. C'est vraiment la focalisation sur cette fluidité, cette simplification.
Très peu de choses, mais ça me parle aussi, ça me fait penser aussi à la culture scandinave. J'en reviens souvent, j'y reviens souvent, mais eux aussi, ils ont l'habitude de vivre dans le retranchement. Et quand ils vont à l'extérieur, ils aiment des choses simples, que les choses soient fluides. Et les gens, de fait, sont très gentils et très accueillants.
Absolument.
Quand ils vont, par exemple, en Suède.
Oui, absolument. Et puis, c'est aussi très accueillant, donc justement, l'accueil. Aujourd'hui,
la chaleur
en boutique, le client doit vraiment percevoir que tout son parcours va favoriser le plaisir et aussi l'immersion avec des petits rituels, avec de la personnalisation, avec de la générosité, puisque tu le disais, la majorité des services aujourd'hui doivent rester gratuits. Ça, c'est vraiment essentiel.
Merci. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une infusion au gingembre péruvien avec une note de citron et du rhum.
Ah, j'adore. Oh, super, ça, c'est merci. Bon, c'est bien chaud.
Ben voilà, vous savez quoi, venir boire chez Marlette.
Ouais. Alors, créer une boutique où il fait bon s'attarder, là encore, ça paraît assez facile, mais on voit quand même que plus qu'une simple boutique, l'espace de vente se construit comme un véritable lieu de vie, un lieu convivial et sténographié. Par exemple, chez Marlette, là, on a des canapés, on a des livres à feuilleter, on a des recettes pas très chères avec lesquelles on peut partir. Il y a toute une mise en scène qui permet de sténographier, de recréer des univers inspirants, de permettre au client de se projeter, de vivre une expérience immersive à plusieurs niveaux d'intensité selon le type de magasin et de produits composés.
Oui, absolument, puisque justement c'est cette idée d'expérience immersive. Après, elle peut être ultra légère, bien entendu, elle peut être gustative, elle peut être aussi dans le toucher, ça peut être une boutique de vêtements, ça peut être de la beauté, ça peut être de la déco, ça peut être se projeter dans un intérieur aussi, mais la scénographie et le côté immersif de
essentiel.
L'expérience, essentiel. Ouais.
C'est très Ikea, ça, je voudrais pas venir toujours à ma marotte qui est la Scandinavie, mais d'ailleurs, tu sais, ces espaces créés par Ikea qui consistent, quand ils sont dans une ville comme Paris, quand ils savent que la taille moyenne des appartements, et je ne vais dire n'importe quoi, est de
50
mètres carrés, ils vont créer des tas d'espaces pour mettre en scène quelque chose comme ça. Je croyais que c'était Ikea, et figure-toi, non, c'est Sir Conrad Shop.
Ouais.
Qui ensuite a été copié par Ikea.
C'est ça.
Voilà. Absolument. Donc, on rend un petit hommage à ce fabuleux architecte, designer qui a changé notre perception du design.
Et de la boutique, justement, tu vois. Et ça, justement, je trouve qu'on revient à ces concepts-là, un peu hybrides, où les atmosphères, c'est vraiment où il fait bon vivre. en fait. Voilà. Ouais. Et peu importe le prix. C'est super intéressant aussi de voir que on peut être chez IKEA, mais on peut être chez The Conran Shop. Peu importe en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment que les boutiques comprennent, en tout cas les marques comprennent. C'est que peu importe la gamme de prix, on peut réaliser ce type d'expérience en boutique aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'attend le client.
Alors, concevoir un espace de partage avec ces communautés qui permet de construire et de fidéliser, comment on fait ? Comment la boutique devient un lieu de rendez-vous ?
Ouais, ben en fait, c'est justement l'idée, comment dire, qu'on peut déjà commencer par transformer cette obligation de la distanciation, parce qu'il faut quand même la prendre en considération, puisque c'est une communauté que l'on reçoit, et qu'on peut la transformer en un moment privilégié. Par exemple, on peut proposer des rendez-vous individuels ou en groupe restreint, à des horaires aménagés, et encore une fois, dans une mise en scène intimiste ou divertissante, etc., selon la marque, pour créer le... comment dire, un sentiment vraiment de confiance, de privilège, de relation d'exclusivité avec
une sorte de rituel. Mm-hmm. Là aussi, on emprunte au code du luxe des magasins, des grands magasins comme le BHV, mais évidemment sa grande sœur qui est les Galeries Lafayette ou encore le Printemps ou le n'en parlons pas, le Bon Marché organise des lieux, des espaces comme ça, où le client est pris en main par une personne et c'est son personal shopper et il l'accompagne.
Voilà, mais là on reste dans la grande structure. Mais tu vois, par exemple, dans le Marais, il y a une boutique que j'aime bien qui s'appelle Les Vilains Parisiens, qui quelque part devient le point de rencontre et de culture avec sa communauté en organisant des ateliers. Des ateliers de couture, de confection, etc. Mais ça peut être des ateliers récréatifs qui vont être évidemment connectés à la marque ou à la communauté. Et dans lequel on se retrouve tous pour partager un moment. Et on ne parle pas d'achat, mais de partage, de savoir-faire, de plaisir, etc. Et évidemment que la communauté va... avec laquelle elle va, je ne sais pas moi, pouvoir repartir avec ou qui va inciter à acheter, mais c'est pas un produit, mais c'est pas la mise en avant. La mise en avant, c'est le partage de quelque chose qu'on va faire ensemble.
Est-ce que c'est pas plus pernicieux? Est-ce que c'est pas un peu nous faire prendre des vestis pour des lanternes? Oh, je te reçois, je te cajole, en fait je veux te vendre des produits et,
En fait oui et non, parce que t'es pas obligé de repartir avec le produit.
Oui.
Donc quelque part c'est vraiment le partage d'une expérience. On ne t'impose rien. Et c'est ce à quoi la marque doit s'attendre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas partir dans l'optique de vendre, mais de faire ressentir une émotion agréable, de faire vivre un moment privilégié et de montrer par l'exemple que le produit qu'elle propose a du sens et qu'elle donne ainsi envie, par truchement, d'acquérir le produit, mais en lui donnant une raison d'être. Une raison de l'emporter avec toi, parce que ça peut être aussi le prolongement de cette expérience.
C'est vrai.
Rien ne t'y oblige.
Moi, quand j'ai eu ce genre d'expérience, je m'aperçois que je craque. Forcément.
Oui. Les trois quarts du temps, oui. Oui, mais il y a ce côté aussi où il y a l'émulation, le fait d'être ensemble, de se dire tiens, chouette, quand je serai avec mes amis, je pourrai le partager comme ça. Oui. Donc, il y a une espèce de reproduction d'une situation ou une simulation de situation qui te remet dans ta propre vie avec cet objet.
Bien sûr, une mémoire de l'événement que tu as vécu et que tu veux partager.
Ouais, c'est ça.
Alors, repenser l'espace physique comme un lieu d'une expérience personnalisée, du sur-mesure. Ah, le sur-mesure, c'est vraiment le terme qui revient. Ouais. Hein, c'est le nouveau mot pour dire luxe.
Oui, et puis pour pas seulement, c'est-à-dire que, étant donné que, comme je te disais, on est aujourd'hui, on est contraint de restreindre le nombre de personnes. Donc forcément, quelque part, c'est du faux, du moyen-mesure, ou du sur-mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le client attend une expérience qui soit un petit peu personnalisée, de quelque manière que ce soit, parce que la personnalisation va prendre différents aspects, se transforme aujourd'hui. La personnalisation, ça peut être justement, ça peut être personnaliser un objet, personnaliser une expérience, personnaliser un lieu, mais ça peut être une personnalité qui se construit en petite communauté. On n'est pas obligé de faire du one-to-one ou du pur sur mesure.
Oui.
Voilà.
En tout cas, il faut repenser, pas voir le client comme quelqu'un de global, privatiser l'espace accessible, ce rendez-vous, ça. Les clients aiment bien, et quand ils désirent recevoir des recommandations déco ou bien des conseils de style ou d'achat personnalisé.
C'est super important, là, comme tu l'as dit, la recommandation. Parce que ce qu'attend le client aujourd'hui, et c'est une forme de personnalisation, c'est la recommandation. Recommandation super importante.
Puis il y a des pop-up stores. Hein.
Ouais.
Alors moi j'appelle ça le Airbnb du commerce parce que je trouve ça a ce côté un peu agressif, surtout quand sortir du confinement, on voit apparaître des marques qui vendent des produits très peu chers. C'est normal, ils sont pas là à l'année, ils n'ont pas à se faire une clientèle, ils n'ont pas à payer des taxes, etc. Autant que ceux qui sont là 365 jours sur 365. Même si je sais qu'il y a des marques qui font un coup d'essai avec un pop-up pour faire quelque chose de plus pérenne.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est pas forcément des produits pas chers. Attention, un pop-up, ça peut être de la super qualité. Ça peut être toute gamme de prix confondue. Mais le pop-up, ça crée la surprise. Ça crée aussi... c'est une manière de donner de la visibilité à sa marque. C'est une manière pour les jeunes designers ou pour les jeunes créateurs qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer qui coûte excessivement cher, de justement occuper un espace, de devenir un lieu de rencontre aussi pour se faire connaître, pour partager un moment avec sa communauté, sans avoir toutes les règles en vigueur qui sont hyper complexes aujourd'hui en France pour pouvoir... avoir une visibilité physique. Et dans un pop-up, tu peux aussi, ce qui est génial, moi je trouve, c'est que tu peux aussi choisir des ambiances, des atmosphères.
Oui.
Chaque saison, tu peux venir à une nouvelle collection, hop, nouvelle atmosphère.
Oui.
Nouvelle, donc,
Mais ça, c'est parce que souvent, ces marques-là sont digitalisées.
Oui.
Et puis, elles ont envie du coup que ça devienne une fête. Elles ont les moyens de faire une fête de cette envergure.
C'est ça. Aussi.
Alors, il y a aussi des lieux de curation où ce rendez-vous, un choix de produit. Il y a aussi un lieu de il y a aussi la possibilité pour la boutique de devenir un lieu de curation.
Voilà,
où ce rendez-vous, on peut faire un choix de produit, une collection, où sont présentés en exclusivité, ce dont tu parlais, ou en avant-première, un groupe de personnes sélectionnées selon des critères de communication spécifiques à la marque.
Oui, tout à fait. Par exemple, il y a une boutique que j'aime bien, celle de Valentine Gauthier aussi, qui est dans le Marais, où sa boutique est devenue un lieu de vie, un petit peu, qu'elle privatise et où elle accueille des marques qu'elle aime bien, des objets, de la vie courante, et ça devient vraiment un style de vie. C'est une boutique qui présente ses vêtements, ses collections, mais en plus une sélection de produits complètement différents qui s'adaptent à la vie, quoi, vraiment.
Alors, tu appelles ça comment? Un lieu de...
C'est vraiment un lieu hybride. Pour moi, c'est un lieu de vie. C'est un concept store, comme on le disait à l'ancienne. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de partage. Et c'est pour moi un lieu de curation. Parce que la marque vient choisir des objets qui n'ont rien à voir avec ses propres collections. Et qu'elle met en scène parce qu'elle les aime, parce qu'elle croit dans le produit, ou parce qu'elle peut aussi proposer une collaboration avec la marque qu'elle présente. Tu vois?
Alors, qu'est-ce que c'est un lieu de click and collect?
Ah oui, ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'étant donné que tu ne peux pas faire forcément ce que tu veux en boutique aujourd'hui, à cause de la distanciation, à cause du nombre limité, etc., en revanche, tu peux commander ton produit et plutôt que d'attendre de le recevoir chez toi, tu peux aller le récupérer à la boutique. Ça permet un contact physique avec les vendeurs, ça permet aussi un contact physique avec la boutique, ça permet de voir ton produit sur place et éventuellement de faire un retour sur place. Donc éviter les frais de retour, le packaging, les surplus, etc. Voilà, c'est ça en fait.
C'est le monde de demain qui nous arrive, dont on nous a beaucoup parlé. On, et qui nous inquiétait tant. Maintenant, on y est.
Ouais. Puis c'est aussi, moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse, au lieu de... C'est pour éviter la politique des retours, on fait déjà les retours, ça coûte cher. Ensuite, toutes ces boîtes, tous ces papiers, tous ces plastiques, voilà. Là, on arrive et on fait ce qu'on a à faire. On peut essayer sur place aussi si tant est, ou en tout cas, voilà. C'est pour moi, oui, c'est la manière de consommer.
Alors, créer une vitrine qui raconte une histoire, ça aussi, c'est une option. Parce que quand on délivre ou quand on assoit un message fort dès sa vitrine, ça donne envie d'entrer et de découvrir la marque.
Complètement. En fait, c'est une invitation au voyage qui est aussi efficace qu'une pub. Surtout si tu es dans une rue passante qui attire justement ta cible, ton consommateur, mais aussi d'autres consommateurs. C'est vraiment une manière de se montrer et, comme tu l'as dit, de transmettre le message. Et puis aussi, elle sera, cette vitrine, certainement relayée sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Donc, autre chose qu'on n'a pas dit et qui me semblait super important, c'est aussi quand la boutique devient un lieu de soutien aux initiatives et aux marques locales. On parlait de l'avenir et pour moi, on revient au local. Donc effectivement, on est global puisqu'on est sur du digital aussi, mais on soutient les collaborations d'artistes ou d'artisans, etc., et des savoir-faire locaux. Super important.
Le global, comme tu aimes tant à dire, global et local dans un même temps.
Ouais.
Alors, pour conclure, le lieu de vente qui doit en parallèle être figital. Ouais. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Et omnicanal, qu'est-ce que c'est exactement ce bignou?
Ce bignou figital, c'est physique et digital.
Ouais.
Donc, effectivement, aujourd'hui, on parle de omnicanal parce qu'il faut être présent sur différents supports de communication, des médias.
Omniscient, il faut être omniscient.
Omniscient aussi, parce qu'il faut être au four et au moulin. Et physique aussi, avoir une présence physique qui est importante.
Oui, sinon on est noyé par Internet,
on est dilué, absolument. Et donc cet objet physique, la boutique, qui peut être aussi une boîte à chaussures, une boîte à bonbons, mais qui permet justement ce véritable contact physique. Et en fait, c'est trouver le juste équilibre entre le canal digital, qui est vraiment complémentaire, et le point de vente physique, qui est quand même indispensable pour moi, pour vraiment véhiculer l'ADN et les valeurs de la marque.
Ah oui, moi je pense que c'est essentiel. J'ai beaucoup de mal à acheter par correspondance. Je trouve que je me trompe souvent quand j'achète par correspondance. Ça m'arrive pas très souvent. Ça m'est arrivé une fois cette année, je me suis trompée de couleur. Une deuxième fois, parce que je m'ennuyais, je me suis acheté une paire de chaussures d'une marque que je connais pourtant bien. J'étais, ça ne ressemblait pas à l'idée que je m'étais faite.
Et encore moins à l'idée, voilà.
Donc, moi, j'ai vraiment besoin de toucher les matériaux, de les voir. Et je me demande comment font les gens pour acheter tant de choses sur Internet.
C'est dingue, ouais. Mais je crois que c'est aussi générationnel. Mais pour moi, vraiment, si on doit conclure sur une chose essentielle, c'est que quand même, il est impossible de dissocier le e-commerce aujourd'hui, avec une boutique en ligne, évidemment, qui permet de développer rapidement sa visibilité et sa croissance, d'un espace physique. Quoi qu'il advienne, que ce soit un pop-up, que ce soit une boutique pérenne, etc. Mais vraiment, la focalisation, c'est la transformation de l'espace physique.
Génial.
Voilà.
Super. Bon, alors on arrive à temps, parce que la Mazorco là, a décidé de faire du bruit et de faire des cafés. En veux-tu, en voilà.
Ça y est, c'est l'heure du brunch.
C'est l'heure du brunch.
On s'y met.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes,
à mettre un commentaire aux 5 étoiles,
à suivre Le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story,
à découvrir les autres épisodes déjà en ligne,
à parler de moderne autour de vous.
Un grand merci.
Katia Barillo et
Sandrine Maggiani,
fondatrice du podcast Moderne.